Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 23 février 1987.
Nous allons continuer d'interroger l'évangile de Saint-Jean. Mieux découvrir ce que Saint Jean, notre Père, en a retenu. J'allais presque dire le vécu du cœur de Saint Jean à travers l'Évangile. La sagesse se communique sans envie. Ce que Jean a vécu. Pour que nous-mêmes puissions vivre sous le souffle de l'Esprit Saint et à travers toute la vie apostolique, puisque on voit très bien, Jean a choisi en dépendance de l'Esprit Saint, il a choisi certains aspects de la vie apostolique de Jésus. Il le dit au terme de son évangile. Mettait tout. L'univers serait rempli. C'est très significatif. Aucun autre évangéliste ne dit ça. C'est que il a choisi. Comment a-t-il choisi? Et c'est là où le sens littéral est quelque chose d'assez extraordinaire. Choisi sous la motion de l'Esprit Saint, ce qui, pour lui, je crois, parce qu'il est témoin, ce qui pour lui a été le plus vital, ce qui donc a marqué davantage son cœur. Il ne donne pas tout. Mais c'est la différence, je crois, entre un historien et un témoin. Un témoin est libre de choisir ce qui est en bonne naturalité avec lui. Quand on témoigne de l'amitié de quelqu'un, tandis que s'il faisait une œuvre historique, il devrait dire tout ce qui est dans son cœur, tout ce qu'il connaît, sans faire un choix. Parce que ce choix risquerait forcément de déséquilibrer. Et l'Esprit Saint laisse à Jean, comme disciple bien-aimé, cette liberté de choix, cette liberté intérieure du choix. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean nous révèle bien ce que Jean a vécu de Jésus. Peut-être que c'est Marie elle-même qui a fait comprendre à Jean l'importance des différents moments de la vie apostolique de Jésus que Jean nous rapporte. C'est très possible. C'est même vraisemblable. Nous aurions Marie avec nous. On lui dirait que nous sommes tous incapables de comprendre vraiment les sommets de la vie apostolique de Jésus, ce que Jésus a voulu mettre en pleine lumière, ce que Jésus a voulu faire selon un certain ordre, passer devant. Je crois qu'on l'aurait tous demandé à Marie, sachant très bien qu'on est incapable de vraiment discerner. C'est vrai, quand vous lisez l'évangile de Marc, de Matthieu, vous avez toute une série d'anecdotes qui se suivent. Dans Jean, on sent très bien, de façon très très forte, cet ordre, donc ce choix. C'est pour ça qu'on l'appelle théologien. On l'a pas appelé. l'appelait l'historien, on l'appelait le théologien, pour bien faire comprendre cet aspect contemplatif, puisque appeler Jean le théologien, c'est pas du tout le professeur de théologie, vous comprenez bien, c'est le théologien, c'est-à-dire celui qui contemple. On est théologien que si on contemple, puisqu'on ne connaît Dieu que par la contemplation. Et le théologien, c'est celui qui contemple et qui, dans cette contemplation, met un certain ordre. Un ordre voulu par l'Esprit Saint, l'ordre qui ne relève pas de lui, et qui relève profondément de l'Esprit Saint. Alors nous avions vu la dernière fois ce dialogue si important, si assez extraordinaire de Jésus avec la Samaritaine. Ce double dialogue, j'allais dire. Le dialogue où Jésus prend l'initiative, donne-moi à boire. Et on est axé sur le mystère du don du Christ, l'eau vive. Et à un moment donné, où il y a un grand silence, parce que Jésus met en pleine lumière la blessure du cœur de cette femme. Elle n'est plus aimée et elle n'aime plus parce qu'elle en est à son cinquième mari. Et c'est la grande blessure. Et Jésus est descendu jusque-là à partir de l'eau vive. Il descend dans la profondeur de la détresse du cœur de cette femme qu'elle cachait très bien. Jésus dévoile cela. Et à partir de là, c'est elle qui va prendre l'initiative, c'est tellement beau ça. Jésus laisse la pauvre dans sa détresse. Au moment où il a dévoilé sa misère, Jésus la laisse passer devant. C'est comme ça la politesse du Christ. Quand Jésus nous dévoile notre misère, il dévoile progressivement notre misère. Il faut du temps pour nous. Parce que nous avons de la peine à découvrir toutes les fragilités qui sont en nous. Et c'est au moment où il montre la plus grande fragilité, la fragilité dominante, celle qui est la grande blessure. À partir de là, il laisse passer devant cette femme. C'est elle qui interroge. Et donc c'est elle qui prend l'initiative du dialogue. C'est tellement frappant, ça. Et c'est très beau. Hein. Parce que prendre l'initiative d'un dialogue, on sait très bien, c'est celui qu'on respecte en premier lieu. Tandis que là, Jésus la laisse prendre cette initiative, et cette initiative va tout de suite sur le point de vue de l'adoration. Jésus a réveillé en son âme ce qui était un peu caché, ce qui était un peu oublié à cause de sa détresse dans l'ordre de l'amour. Alors elle revient au premier amour, qui est l'adoration. À ce premier amour qu'elle n'a pas vécu pleinement et totalement à cause de ces discussions liturgiques. Vous savez bien que les discussions liturgiques, quelquefois, peuvent devenir des obstacles terribles au développement le plus profond de l'amour. Et cette discussion liturgique qui faisait mettait en rivalité les Samaritains et les Juifs, savoir s'il fallait adorer à Jérusalem ou sur les hauts lieux. On voit très bien que cette discussion a empêché cette femme d'entrer pleinement dans l'adoration. Mais ça, c'est l'astuce du démon. Et c'est tout le temps comme ça. Parce qu'on peut dire, même dans des communautés religieuses, ça peut arriver qu'à la place de prier, on est attentif à savoir si le chant est en connaturalité avec nous ou en non-connaturalité. sans voir tout l'abîme qu'il y a entre les deux. La chose essentielle, c'est adorer. La chose essentielle, c'est louer Dieu. Peu importe les modalités, oui, il faut les regarder quand on doit les regarder, mais il ne faut pas que la discussion étouffe l'adoration. Et on voit très bien que cette discussion a empêché cette femme d'aller jusqu'au bout. Et je crois a été comme la première fêlure. Oui, alors ça met en pleine lumière l'importance de l'adoration. Ça. Pour moi, c'est un des lieux les plus émouvants de l'écriture, parce qu'on voit que si l'adoration n'est pas là pour donner la stabilité foncière à toute notre vie, notre vie a une stabilité en raison même de la qualité de notre adoration. Parce que par l'adoration, nous rejoignons le roc. Et par le fait même, nous avons là quelque chose qui nous permet de laisser l'Esprit Saint et nous-mêmes avec l'Esprit Saint édifier la cathédrale que Dieu voudra édifier dans notre cœur. C'est dans la mesure où l'adoration est parfaitement respectée qu'il peut y avoir ça. Et qu'on sera assez fort pour lutter contre tous les faux amours, pour lutter contre toutes les imaginations et les passions qui empêcheront l'amour de se développer. Cet amour profond. Et Jésus, face à cette discussion, rappelle ce que lui vient apporter. Le Père est esprit, Dieu est esprit, il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Je crois que là, il rejoint l'autre aspect de ce discours, de ce dialogue. C'est peut-être ce qu'on doit essayer de comprendre, voyez. Dieu a voulu qu'il y ait ces deux versants dans ce dialogue. Jésus qui prend l'initiative pour réveiller celle qui est complètement endormie dans son adoration. C'est Jésus qui vient l'éduquer, lui rappeler la nécessité d'adorer. Et quand cette femme commence à se réveiller, Jésus montre qu'il faut des adorateurs en esprit, en vérité. Alors, je crois que c'est cela qui nous fait comprendre la signification profonde de ce dialogue. Jésus vient apporter l'eau vive. L'eau vive, c'est le symbolisme de la charité. Source d'eau jaillissante. Source d'eau jaillissante. Pas seulement l'eau vive, mais une source d'eau jaillissante. C'est le grand mystère de la charité, ça. Oui, à Nicodème, c'est la grâce, et à la Samaritaine, c'est la charité. Parce que dans la charité, il faut qu'on coopère. Je ne peux pas entrer ici dans toutes les grandes discussions théologiques sur la charité. Mais vous savez que pour saint Thomas, l'analogie première du mystère de la charité, c'est la philia. L'amour d'amitié. C'est très beau de voir ça. C'est saint Thomas qui se sert de ce que représente l'amour d'amitié pour expliciter théologiquement le mystère de l'agapé. Et on sait très bien que aujourd'hui, on comprend très difficilement ça. Et certains ont voulu rejeter complètement cette analyse de saint Thomas. Alors ce qui est important, c'est de voir comment saint Thomas montre cela pour que nous comprenions que l'agapé pour saint Thomas réclame notre coopération. L'agapé nous est donné gratuitement. La charité nous est donnée gratuitement. Mais si la charité est donnée gratuitement, elle réclame notre coopération. C'est-à-dire que la charité ne pourra grandir en nous que si nous mettons toute notre volonté, tous nos désirs à aimer Jésus. Mais c'est juste l'inverse du quiétisme, c'est juste l'inverse de l'illuminisme. C'est comprendre que si la charité nous est donnée gratuitement, la croissance de la charité nous est remise. C'est nous qui sommes responsables de la croissance de la charité. C'est ça qui maintient la ferveur. Le jour où on a compris ça, on ne peut plus ne pas être fervent. C'est impossible. Ce serait trop gros, vous comprenez. Quand on a compris le prix de l'agapé, le prix de cet amour divin, et de comprendre que Jésus veut, le Père veut, que ce soit nous qui sommes responsables de la croissance de la charité. C'est-à-dire que nous mettions tout en cause pour que la charité grandisse en nous. Et mettre tout en cause pour que la charité grandisse en nous, c'est justement vouloir aimer. Et vouloir que notre volonté soit saisie par cet amour divin, cet amour gratuit. Or, la charité reçue dans notre volonté à partir de la grâce va devenir la forme de toutes les vertus. C'est-à-dire qu'elle va, de fait, s'emparer de toutes les forces vives qui sont en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental dans nos vertus ? C'est la vertu de religion. Alors, Jésus souligne lui-même ce lien entre la charité, l'agapé et l'adoration. Et vous voyez là, j'allais dire, il récupère ce que cette femme dit. Son problème de l'adoration, ça rejoint l'eau vive, c'est la charité. Et la première chose que la charité doit transformer dans notre vie, la première chose, dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre génétique, la première chose que la charité doit transformer dans notre vie, c'est l'adoration. Donc, l'exercice de la vertu de religion, dans ce qu'elle a de plus fondamental, et permettre à l'adoration d'être une adoration tout aimante, c'est-à-dire adorer en esprit, en vérité, adorer sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est cette adoration sous le souffle de l'Esprit Saint qui nous met dans la vérité pratique. Notre vie n'est vraie pratiquement que lorsque nous adorons sous le souffle de l'Esprit Saint. Lorsque notre adoration est le fruit de la charité et de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, oui, notre cœur s'ouvre pleinement à l'action de l'Esprit Saint. Et nous sommes dans la vérité parce que nous comprenons, dans l'adoration, on est totalement dépendant. Puisque c'est le propre de l'adoration, c'est de reconnaître cette totale dépendance et par le fait même cette petitesse. Vous voyez, la petitesse évangélique, c'est là où on la saisit. On ne peut pas la saisir autrement. On la saisit dans l'adoration, puisque par l'adoration, on reconnaît qu'on n'est rien en face de Dieu et que tout ce qu'on a vient de lui. Et donc, c'est reconnaître et aimer cette petitesse, ce néant. Aimer cette petitesse, ce néant, pour être plus dépendant de Dieu. Et par le fait même, recevoir davantage son amour, être plus proche de lui. Je crois ça très important pour nous. Comme pédagogie divine. Je crois que c'est cela que Jean a compris pour être un disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, on dit toujours la fidélité, oui, mais la fidélité, comprenez bien, l'infidélité dans l'amour divin, comment cette fidélité va-t-elle s'entretenir et grandir? Vous comprenez que celui qui n'a pas été fidèle, c'est pas au moment de la croix qu'il sera fidèle. Du reste, on voit bien, tous les autres sont partis. Et c'était pourtant d'ici que vous avez fait 3 années de noviciat. Et quand la croix du Christ arrive au moment où on l'arrête, il s'en va. Et il s'en va avec précipitation. Hein. Il y a des petits détails dans l'écriture qui nous montrent bien qu'ils partent avec précipitation. Ils n'ont qu'un seul désir, c'est partir le plus vite possible. Comme résultat de noviciat, vous voyez, le père Metz, il avait ça. 12 novices, un seul qui fait profession. Un seul, présent à la croix. C'est terrible, hein? Alors là, l'immense avantage, c'est qu'on ne peut pas dire que Jésus est un mauvais maître de novice. On ne peut pas dire que Jésus a manqué de sollicitude vis-à-vis de ses apôtres. Pas du tout. Il a eu une sollicitude unique de miséricorde. Et comme le cœur de l'homme a de la peine à comprendre l'adoration, je crois qu'on a une très grande peine de vraiment vivre de l'adoration. C'est pour ça que j'insiste. Parce que je crois que c'est le secret du cœur de Saint Jean. On voit tout de suite, hein, les sommets, Saint Jean garde les secrets. Oui, mais comment a-t-il gardé les secrets? C'est parce qu'il est entré dans cette petitesse d'une âme qui adore. Et parce qu'il a aimé cette petitesse d'une âme qui adore. Il a voulu vivre de cela. Il a compris auprès de Marie que c'était là le grand secret. Adorer en esprit, en vérité. Faire que la charité prenne possession de notre cœur de cette manière. Et c'est par l'adoration que notre cœur s'ouvre pleinement et totalement à l'Esprit Saint. Ne résistez jamais à l'Esprit Saint. Saint Paul nous le dit. Et vous allez me dire comment. Très bien de donner ça, mais on sait que nous sommes tout le temps en état de résistance. Ne résistez jamais à l'Esprit Saint. Comment adorer? En esprit et en vérité. Comprenez cette exigence fondamentale de l'adoration, radicale. Je crois que quand on adore, on est à l'écoute de l'Esprit Saint. Quand on adore, on refuse, on ne peut rien refuser, puisqu'on reconnaît qu'on n'est rien. Et par le fait même, on laisse l'Esprit Saint passer devant. C'est le grand secret, vous savez, que nous livre Jean. Et c'est très beau, parce que c'est communiqué à la Samaritaine, à la pécheresse. C'est la même pédagogie pour Marie et la femme pécheresse. C'est étonnant. Il n'y a pas deux pédagogies différentes. C'est la même pédagogie. Marie a suivi comme voie pour croître toujours plus cette voie, le premier commandement donné par Moïse. Le premier commandement, c'est l'adoration. Et l'adoration demeure, parce que pas un iota de la loi disparaît. L'adoration demeure au cœur de la charité. Vous voyez, c'est au fond, personnellement, je crois, le grand équilibre de notre vie chrétienne qui est là et qui nous est montré là. Parce qu'on n'adore que Dieu. Alors on ne peut pas identifier l'exercice de la charité avec la charité fraternelle. Alors vous oublieriez l'adoration. Vous mettriez entre parenthèses l'adoration. l'exercice premier génétiquement au plan de notre éducation, de la charité, de l'agapé, c'est l'adoration. Parce que la charité regarde d'abord Dieu. Et comme la charité nous est donnée, en tant que nous sommes une créature, nous ne pouvons pas être vrais en face de Dieu, en dehors de l'adoration. C'est dans l'adoration que vous êtes vrai en face de Dieu. Parce que vous reconnaissez à ce moment-là que vous n'êtes rien. Donc c'est la grande rectification de notre cœur. Alors on comprend comment la charité doit tout de suite prendre possession de notre cœur qui adore. Et c'est par là que la charité pourra croire. Que l'agapé pourra croître. C'est par là que nous pourrons contempler Dieu. Pas de contemplation sans adoration. C'est la condition sine qua non de toute contemplation divine, mystique. Et c'est le conditionnement le plus radical et qui, par le fait même, nous met dans la vérité. Autrement, l'agapé risque de se corrompre. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit. Ou elle risque de s'humaniser, c'est-à-dire s'identifier avec une amitié humaine. Je crois que c'est les deux grands dangers. Et c'est les deux grands dangers actuels. Ça, c'est sûr. C'est de pas comprendre que l'agapé demande de se traduire dans l'adoration pour que son exercice soit vrai et transforme toute la pâte humaine et lui permette d'être offerte à Dieu. Et alors à ce moment-là, peut aller jusqu'à la contemplation et permettre que la charité fraternelle demeure toujours enraciné dans un premier amour et que la charité fraternelle puisse s'achever dans l'amour à l'égard de Dieu. Vous savez bien quand Marthe, je dis ça c'est parce que pour nous ça doit nous aider, quand Marthe a reçu du Seigneur ce premier secret qui était à l'origine de tous les foyers, que le Seigneur demandait des foyers où il y ait ce souci de lumière, ce souci de charité et l'amour. Ces trois grands mots clés de tout le renouveau de l'Église, je crois. Je crois que c'est vraiment les trois grands mots clés de tout le renouveau de l'Église qui avaient été posés dans le cœur de Marthe. 1933, je crois. Exactement comme date. C'est donc avant l'arrivée du Père Finet. Foyer de lumière, foyer de charité, foyer d'amour. Alors, je vois encore quelqu'un venant de Rome pour voir si c'était bien de Dieu tout ce qui se passait à Châteauneuf. Mais il dit, mais je comprends pas. L'agapé, c'est la charité, l'amour. Donc il y a une répétition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lumière, on comprend très bien. Mais agapé, charité et amour. Ah, c'est peut-être parce que Dieu parle à une petite paysanne qui ne comprend pas très bien certaines distinctions théologiques. C'était la réflexion de ce théologien. Et alors, je l'ai vu après. J'ai dit, alors, vous avez l'explication? Oui, j'ai demandé à Marthe. Et Marthe a dit oui. Lumière, charité fraternelle et amour. Le retour. Dieu est amour. Dieu est agapé. Dieu est charité, c'est sûr. Mais dans le langage courant, le retour vers Dieu. Je trouve ça très beau. Et c'est ça qui donne la santé d'une communauté. Si elle fait partie du renouveau, lumière, charité, amour. La charité provient de l'amour. La charité retourne à l'amour. L'amour de Dieu. Et c'est vrai, chaque fois que vous aimez plus vos frères, que vous les connaissez mieux, divinement et humainement, vous avez une envie folle, encore beaucoup plus grande, de retrouver Dieu seul, pour porter vos frères, et pour les porter plus. Et on sent très bien que c'est le double mouvement constant de notre vie. On est très heureux de prier ensemble, on est très heureux de se connaître, on est très heureux de travailler ensemble, on est très heureux de s'aimer. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas s'arrêter à cela. Parce que on doit ensemble, et en comprenant ce que ça veut dire, ensemble, chacun, dans un regard unique, personnel, on retrouve Dieu dans la solitude, l'adoration et la contemplation. Je crois ça très, très important, et c'est ça qui explique, voyez, cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, et comment l'eau vive, qui est la charité, l'eau vive qui fait de nous des sources jaillissantes d'amour, l'eau vive va s'incarner, cette charité va s'incarner dans l'adoration en esprit, en vérité, pour transformer l'exercice de la vertu de religion, pour transformer l'adoration en une adoration en esprit, en vérité. Mais l'adoration en esprit, en vérité, ne regarde que Dieu. Vous n'allez pas, au nom de la charité, adorer votre prochain. Alors on retomberait dans un polythéisme affolant. Au nom de la charité, avec tout l'amour que vous avez pour vos frères, vous retournez vers Dieu dans l'adoration. Et quand vous adorez Dieu, vous êtes seul avec Dieu. On peut avoir son frère à côté de soi, mais on ne le regarde plus. On ne peut plus le regarder. On ne regarde que Dieu. Et c'est comme ça qu'on aime le plus son frère. C'est de ne regarder que Dieu. Si on disait à son frère, je t'aime tellement que je ne peux plus regarder Dieu, je ne regarde que Dieu, je ne regarde que toi. On dirait que ça ne va plus du tout. C'est plus la charité, ça. C'est l'humanisation de la charité. Mais c'est un point de vue psychologique qui vient corrompre le mystère même de la charité. L'alourdir. Parce que quand vous faites une théologie avec une métapsychologie, vous alourdissez le mystère. C'est-à-dire vous l'humanisez. Parce que vous ne voyez plus ce qui caractérise la finalité. Et vous ne voyez plus que le conditionnement. Et c'est vrai que dans l'ordre du conditionnement, c'est très très juste. Dans l'ordre du conditionnement, la charité à l'égard de son frère, c'est plus immédiat. Saint Jean le dit, n'est-ce pas ? Parce que ça reste sensible. Là, c'est beaucoup plus agréable. Et on le sent, moi. Quand vous aimez votre frère, vous le sentez, votre cœur est chaud, il est brûlant. Quand vous aimez Dieu, il est quelquefois froid. Alors on aime mieux la chaleur que le froid. Et c'est vrai, ça, il faut le reconnaître, quoi. Quand quand on est dans la charité fraternelle, et surtout quand cette charité fraternelle assume déjà un amour humain de façon très belle et très grande. Alors aimer ses frères, c'est merveilleux. Tandis qu'aimer Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et on le connaît par la foi. Et donc, c'est quelquefois glacial. On ne sent rien du tout. Quand vous êtes dans la charité fraternelle, vous ne trouvez jamais le temps long. Tandis que quand vous êtes en oraison, ça peut arriver. Alors, voyez comment on glisse, psychologiquement. On se donne bonne conscience en disant, mais aimer le prochain, c'est aimer Dieu. C'est même l'aimer parfaitement, parce que c'est ce qu'il y a d'ultime. Donc c'est là où on doit se reposer. Aimer le prochain, c'est aimer Dieu. Vous voyez l'aspect psychologique qui progressivement enlève le mystère. Et c'est le conditionnement qui enlève le mystère de l'amour divin qui implique adoration, contemplation. Je crois que tout ça est dit là-dedans. Et Jean, vous voyez, c'est ça qui est très beau. Jean qui dans son épître insiste tellement sur la charité fraternelle. Dans l'Évangile, il nous montre l'absolu en profondeur de la charité, de l'amour divin, qui doit venir transformer la pâte dans le mystère de l'adoration. C'est la charité qui doit transformer notre adoration, en esprit, en vérité. Et qui nous fait comprendre à ce moment-là que c'est la seule manière pour nous d'être vrais vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes dans la solitude vis-à-vis à l'égard de Dieu, c'est-à-dire solitude, entièrement pris par lui et par lui seul, plus nous témoignons au prochain que nous l'aimons, parce que nous lui donnons ce qu'il y a de meilleur en nous. Tandis que si on s'écarte de cette adoration et de cette contemplation vécue pour elle-même, à ce moment-là, on ne donne plus au prochain le meilleur de soi. Dans ce dialogue, Jésus nous met très en lumière cette exigence de l'eau vive, donc de la charité. Il nous fait comprendre que cette charité va s'épanouir de cette manière si mystérieuse et si cachée. En même temps, Jésus nous fait comprendre quelque chose aussi très important. Cette exigence d'être seul dans la charité fraternelle avec cette femme qui est dans un état de misère. Plus on est dans un état de misère, plus le péché est lourd, plus il faut être attentif. Au pécheur, plus il faut être proche de lui, dans une attitude de miséricorde, comme Jésus. Vous comprenez bien que si les apôtres avaient été là, la Samaritaine n'aurait rien dit. Et Jésus n'aurait pas pu interroger. On est bien demandé à la femme, donne-moi à boire, alors que Pierre est là, alors que Jean est présent, alors que les douze sont présents. Ça ne signifie rien du tout. C'est impossible. Jésus ne pouvait pas le faire. Et c'est la première fois que nous voyons que Jésus agit seul dans sa vie apostolique. Et c'est pour être plus présent à cette pécheresse, à celle qui est la sœur séparée, à celle qui est donc dans une situation toute particulière de détresse. Un juif ne parle pas à une samaritaine. C'est très très net. On voit tout ce que ça implique. La supériorité du juif à l'égard de la samaritaine. Donc il ne parle pas de Samaritaine. La Samaritaine est rejetée. Jésus agit inversement, puisque c'est lui qui prend l'initiative. La Samaritaine n'aurait pas pu. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui parle. Et il a choisi la Samaritaine, la plus typique. La pécheresse. Et c'est celle-là qu'il regarde pour nous faire comprendre sa miséricorde et sa miséricorde prévenante, pour nous faire comprendre la manière étonnante avec laquelle il est attentif à chacun d'entre nous. C'est vrai, les deux extrêmes de l'humanité, hein, c'est bien la femme immaculée et la femme samaritaine pécheresse. Voilà les deux extrêmes de l'humanité. Et Jésus est présent aux deux. Et Jésus attire l'une et l'autre. Que Jésus soit seul pour pouvoir agir directement et la réveiller de son sommeil spirituel, religieux. Et quand les apôtres viennent, on voit très bien, quand les apôtres viennent, la Samaritaine comprend très bien qu'elle n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de partir. Et Jésus le sait très bien, il la laisse partir. Il a tout dit. Et les apôtres ne comprennent rien. Jean faisait partie de ses apôtres. C'est pour ça que peut-être il a été si impressionné. On peut passer devant certains actes de miséricorde de Jésus sans rien comprendre dans notre vie. Les apôtres interrogent : pourquoi parles-tu avec elle ? La femme laissa donc sa cruche et s'enfuit à la ville. Et elle dit aux gens : venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? Ça, c'est le témoignage spontané du vécu. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Jésus en a rien de temps. Il a montré sa fragilité, sa carence, la faille qui était en elle. Entre-temps, les disciples le priaient et disaient « Rabbi, mange !» Voyez, quelle chute! Et David, la Samaritaine, en parlait de l'adoration. Vis-à-vis de la Samaritaine, en présence avec la Samaritaine, Jésus se dévoile comme le prophète qui doit venir. Et les apôtres arrivent avec leurs gros sabots. C'est le cas de le dire, hein, c'est tout à fait ça. Ils sont très contents d'amener tous les vivres. Ils ont faim, que voulez-vous. C'est typique. Et puis, ils sont familiarisés avec Jésus. La Samaritaine, c'est la première fois qu'elle le rencontre. Et elle comprend très bien qu'avec Jésus, tout doit s'élever. C'est plus du même ton, c'est quelque chose de différent. Jésus ennoblit, il lève, et il réveille ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'homme. Mais les apôtres sont habitués, hein. Ils sont plus frappés de ça, rapidement. C'est très curieux. Ils s'étonnaient, pourquoi parles-tu avec elle? Que lui veux-tu? Ça, c'était entre eux. Alors, pour éviter la tentation, Rabbi mange. C'est une manière d'éviter les tentations. On se précipite au réfectoire et on mange. À ce moment-là, on ne pense plus à rien, si ce n'est qu'à la soupe. C'est vrai, ça fait partie de notre conditionnement humain, ça. Mais quand il s'agit de Jésus, c'est assez frappant de voir ça. Et il leur dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors là, Jésus les intrigue. Jésus refuse cette invitation rapidement. D'habitude, Jésus acceptait. Très rare que Jésus montre qu'il n'a pas besoin de la nourriture que les hommes lui donnent, la nourriture physique. Les disciples se disaient donc entre eux, quelqu'un aurait-il apporté à manger? C'est la seule chose qu'ils peuvent penser, n'est-ce pas? Ah, ils sont absolument pris par l'organisation du repas. Ah, ils n'en sortent pas. Et c'est difficile pour eux d'en sortir, tellement c'est important. Alors Jésus les prend à leur niveau, puisqu'ils parlent d'aliments, allons-y. Jésus leur dit, mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Oui, il a parlé de l'eau, il parle de l'aliment. C'est curieux ces choses-là, vous savez, c'est vrai, il y a une différence entre la Samaritaine et les apôtres. Eh bien, en face du Christ, il y a la même distance. Pas une très grosse différence. Et d'une certaine manière, la Samaritaine est montée plus vite, très haut. Ça ne vit très très rapide. Extraordinaire. Jésus l'a montée très très haut. Et les apôtres, quand ils reviennent, alors ils n'ont pas perdu ce qu'ils avaient vu avant. Toute la matinée passée avec Jésus, c'est quand même merveilleux. Ils ont été évangélisés pendant cette matinée. Oui, mais quand on a faim. Bien sûr, voilà, c'est très difficile d'entendre autre chose et de se rappeler autre chose. Oui, ça c'est le niveau humain. Ils sont pris par l'organisation du repas. Ils sont tellement pris par cela qu'ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un ne soit pas pris par ça. Ils regardent Jésus à travers leur provision. Dire en scolastique, la race aux soupes, quoi. C'est à travers leur provision. Ils ne voient pas autre chose. C'est comme ça qu'ils le regardent. C'est dans cette lumière. Alors Jésus regardait la Samaritaine dans la lumière de la sagesse de Dieu et de l'adoration. Et alors Jésus, puisqu'il parle d'aliment, Jésus leur donne cet enseignement, mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ils n'ont pas dû comprendre. Jésus qui passe de l'aliment qu'il vient d'apporter à quelque chose de tout à fait différent. Oui, je crois que ça, c'est le troisième point de ce grand dialogue. Il y a les deux aspects du dialogue. Puis ici, quelque chose de nouveau, c'est la volonté du Père qu'on doit chercher à accomplir. Et c'est cela avant tout. Alors voyez, comme ça rejoint les deux autres aspects. Quelle est la volonté du Père? C'est quand même ça qu'on doit se poser toujours la question. Quelle est la volonté du Père à accomplir? C'est premièrement l'adoration. C'est premièrement l'adoration. Puisque c'est le premier commandement qui demeurera toujours fondamentalement le premier commandement. Et si ce premier commandement n'est pas accompli comme premier commandement, les autres ne peuvent pas, même pas la charité fraternelle. C'est très beau de voir la manière dont Jésus reprend tout ce qu'il a dit par rapport aux apôtres, en donnant un nouveau regard. Accomplir la volonté du Père, c'est son aliment, c'est son pain, c'est sa nourriture. Accomplir la volonté du Père, accomplir la volonté du Père dans l'adoration en esprit, en vérité. C'est l'aliment, troisième aliment, vous savez bien. Si je regarde bien l'Évangile, hein, c'est toute la théologie profonde de la communauté chrétienne. Le pain, la parole de Dieu, l'Eucharistie, et puis la volonté du Père. L'accomplissement de la volonté du Père. Et alors, après cela, il y a une quatrième note dominante qui est extrêmement importante. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois, et la moisson vient. Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes. Elles sont blanches pour la moisson. Désormais, le moissonneur va recevoir un salaire et amasser du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse en même temps que le moissonneur. Voyez que Jésus donne là un quatrième aspect. On voit bien, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir le lien entre tout ça, le lien de la sagesse de Dieu, comment ces différents aspects se complètent, et ces différents aspects montrent l'unité profonde de ce dialogue. Vous voyez que Jésus, là, montre le caractère de myopie de regard. Il n'espère plus. On a l'impression que l'organisation du repas les ont mis à l'horizontale et que la verticale a complètement disparu. Et Jésus leur redonne ce sens, alors d'une façon très nette. Levez les yeux et voyez la campagne. Elles sont blanches pour la moisson. Tandis que, qu'est-ce qu'il disait ? Encore 4 mois, et la moisson vient. Je crois ça très important. Jésus montre toute la distance qu'il y a entre son regard et le regard des apôtres. Le regard des apôtres, ils ont quitté Jésus. Ils ont été pour l'organisation du repas. Ils ont laissé Jésus. Alors ils sont retombés. Et il y a une appréciation toute humaine. Encore 4 mois. Et pour Jésus, non, la moisson est déjà blanche. Là, on découvre la hâte de l'amour. C'est vraiment la hâte de l'amour. C'est l'espérance pour nous. Mais plus profondément, puisque en Jésus, il n'y a pas la vertu d'espérance, mais il y a la hâte de l'amour. Ah, vous voyez là, cette note particulière, le regard de Jésus, c'est toujours de voir ce qu'il y a d'ultime. Pour Jésus, on vit toujours de la fin des temps. Toujours. moisson est blanche. Regardez le texte dans l'Apocalypse. Jette ta faucille, la moisson est blanche. Et c'est un ange qui dit ça. C'est Marie, reine, qui dit ça. Jette ta faucille. C'est très extraordinaire, ça. L'apôtre, c'est celui qui vit toujours de cette espérance eschatologique et dernière. C'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il doit regarder comme la moisson blanche. Et qu'il n'écoute pas sa prudence rationnelle qui dit encore 4 mois. Parce qu'il y a les deux choses en nous. Facilement, nous disons encore 4 mois. Parce que pendant ça, dans l'arbre, hein, on peut s'organiser. Et Jésus dit, la moisson est blanche. Jusque-là, on avait l'impression qu'il y avait une harmonie parfaite entre le regard du Christ et le regard des apôtres. Et subitement, l'organisation du repas a mis comme un poids. C'est le poids horizontal sur leur cœur. Et ils ne sont plus en unité parfaite avec Jésus. Et ça se voit. Et ça se sent. Mais comme c'est grave, ça. Pour nous, si on veut comprendre un tout petit peu. Comme c'est grave. Comme facilement. L'organisation des repas, je dis pas ça pour le réfectorien, l'organisme cuisinier, mais comprenez symboliquement, l'organisation des repas remet dans l'horizontale les œuvres temporelles et fait que ça prend, ça saisit de façon telle que c'est en fonction de ça qu'on regarde les choses. Important pour avoir le souci de regarder tout dans la lumière du Christ. Parce que si on ne regarde pas dans la lumière du Christ, on perd son temps. On est dans l'organisation alors qu'on devrait être dans la moisson. Et Jésus montre, pour bien montrer cette hâte, que le moissonneur et le semeur se rejoignent. C'est ça le propre de l'économie divine dans l'Église.